Bienvenue sur Follow the Bible Ministries. Aujourd'hui, nous allons étudier quelques versets de la Bible, confiant qu'ils affermiront votre foi en Dieu et en sa sainte parole. Et maintenant, passons à notre étude.
Nous allons maintenant reprendre notre étude biblique à partir de là où nous nous étions arrêtés la dernière fois.
Ne suffit pas pour que chacun en reçoive un peu. André, le frère de Simon-Pierre, l'un de ses disciples, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus leur dit, « Faites-les asseoir. » Or, il avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Les hommes s'assiront, donc au nombre d'environ 5 000. Jésus prit le pain, après avoir rendu grâce, et le distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis. Il fit de même avec les poissons, autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramasseront donc, et remplira 12 corbeilles avec les morceaux de 5 pains d'orge qui restent après que tout ont été mangé. Alors, ces hommes, ayant vu les miracles que Jésus avait accomplis, dirent, « Ceci est véritablement le prophète qui devait venir dans le monde. » Jésus a miraculeusement nourri une foule de 5 000 personnes. Remarquons la conclusion qu'en tirent les gens à propos de Jésus. Ils ont dit, « Voici la vérité du prophète qui devait venir dans le monde. » Ceci est une affirmation vraie et c'est une bonne chose qu'il allait faire, car il croyait en son sincérité. Un peu plus tard, ces mêmes personnes retrouveraient Jésus et s'entretiendraient avec lui. Jésus leur fit alors une déclaration intéressante et convaincante au verset 26 du même chapitre. Nous lisons. Jésus leur répondit, « en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celui qui demeure pour la vie éternelle, celle qu'est le Fils de l'homme. Vous donnera car celui que Dieu le Père a marqué du sceau. » Jésus invite ces personnes à examiner, à réfléchir ce qui se passe dans leur cœur. En réalité, il les avertit que leur attention est peut-être trop portée sur la nourriture matérielle, au détriment du pain de vie qui est le Christ lui-même. Ce message ne s'adresse pas seulement à eux, mais aussi à nous. Puis Jésus leur révèle d'autres vérités de l'Évangile. Après les cérémonies de Jésus, nous lisons la réaction du peuple au verset 60. Nous lisons. Beaucoup de ses disciples, après avoir attendu cela, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'attendre ?» Sachant que ses disciples murmurent, Jésus leur demandant « Cela vous scandalise-t-il » Ces gens n'appréciant pas ces paroles, ils répondaient « Ces paroles sont dures, qui peut les entendre ?» Ces gens étaient heureux de suivre Jésus lorsqu'il accomplit des miracles et nourrissent la foule. Mais lorsqu'il commence à prêcher, sérieusement, ils se plaigneront de ses enseignements étaient trop difficiles. Quelques versets plus loin, nous lisons la réaction de ces gens à partir du verset 66. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirant et ne les suivront plus. Jésus dit alors aux 12, « Et vous, vous allez vous aussi partir ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous ? Tu es les paroles de la vie éternelle. Et nous croyons, et nous savons que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Nous constatons que beaucoup l'ont quitté à ce moment-là. Jésus s'adresse aux 12 apôtres. Il semble que presque tous les autres l'ont abandonné. Pierre donne la réponse d'un vrai croyant. Il savait que Jésus est son message venant de Dieu. Cependant, il semble que la plupart, voire la totalité, de cette foule nombreuse aient quitté le Seigneur Jésus lorsqu'il s'est consacré sérieusement à l'enseignement de l'Évangile. Ceci nous pose une question. Si nous suivons le Seigneur Jésus, pourquoi les suivons-nous? Les suivons-nous parce que nous croyons qu'il vient de Dieu et que son message est la vérité. Dans ce cas, nous les suivons pour la bonne raison. Ou bien suivons-nous Jésus parce que nous pensons d'une manière ou d'une autre qu'il nous apporte des récompenses et des richesses particulières en ce monde? Si tel est le cas, c'est une erreur. Revenons à Marc chapitre 1 et lisons les récits suivants. Nous lisons à partir du verset 29 de Marc chapitre 1. Aussitôt après l'heure sortie de la synagogue, ils entreront dans la maison de Simon et d'André avec Jacques et Jean. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de fièvre. Aussitôt, on les lui dit. Il s'approcha, la prit par la main et la releva. Aussitôt, la fièvre la quitta. Elle s'est mise à les servir. Jésus et ses apôtres ayant terminé leur mission à la synagogue de Capernaum, ils la quitteront. Ils se rendiront ensuite chez Simon et André. Simon est un autre nom pour Pierre. La femme de Simon, ou Pierre, était malade. On remarque ici que l'apôtre Pierre était marié. Ceci montre qu'il n'y a pas d'interdiction pour les ministères de Dieu de se marier. Voici un exemple de guérison par Jésus. Le fait que Jésus ait guéri de nombreuses personnes, fait marcher des paralytiques et accompli d'autres miracles était une preuve qu'il venait de Dieu. C'est l'un des enseignements de Dieu ici. Plus précisément, que Jésus vient de Dieu car il a pu accomplir ces miracles. Mais derrière ce guérissement se cache une vérité plus importante. Ces guérissements effectués par Jésus était une image évangélique de la guérison de notre relation avec Dieu. Nous pouvons avoir des maladies physiques, mais les maladies graves affectent notre relation avec Dieu. Nous avons besoin de guérison dans notre relation avec Dieu, car nous avons péché et nous sommes étranges de lui. Dieu parle de ces problèmes dans la première épître de Pierre chapitre 2. À propos du Seigneur Jésus, on lit à partir du verset 24. « Qui a apporté lui-même nos péchés, son propre corps, et resté sur les bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. C'est par ce meurtrissure que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis éreintées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Ces versets expliquent comment Jésus a payé le prix des péchés de ceux qui ont placé leur confiance en lui comme sauveur. Si Dieu nous a sauvés, c'est que le Seigneur Jésus a dû porter nos péchés dans son corps sur la croix, comme le dit les versets. Arbre désigne la bois de la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Jésus a reçu les meurtrissures de la colère de Dieu en punition de ses péchés. Et selon les versets 24, ces meurtrissures nous ont guéris. Les souffrances endurées par le Christ sur la croix guérit notre relation avec Dieu. Elles n'ont pas guéri notre corps. En réalité, la Bible indique qu'il n'y a pas de promesse de bonne santé pour les vrais croyants. Vous souvenez-vous peut-être de la parabole de Lazare, le pauvre, et du riche dans l'évangile de Luc chapitre 16. Lazare est un homme pauvre, couvert de la plaie, mais c'est un vrai croyant. L'homme riche n'a aucun problème. Pourtant, il n'est pas sauvé. Nous lisons à partir du verset 19. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin lin, qui menant une vie fastueuse chaque jour. Il y avait aussi un mendiant nommé Lazare, couché à sa porte, couvert de plaies. Il souhaitait se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. De plus, le chien venait lécher ses plaies. Or, il arriva que le mendiant mourit et fit emporter par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourit aussi et fit enterrer. Et dans les jours de mort, en proie et de grandes souffrances, il leva les yeux et aperçut Abraham au loin et Lazare dans son sein. Alors, il cria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoyez Lazare tremper les bouts de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans ces flammes. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens durant ta vie. » Et Lazare le mot. Mais maintenant, il est consolé et toi tu souffres. De plus, un grand abîme sépare vous de nous, de sorte que ceux qui voudraient passer de là vers nous ne le peuvent pas, et ceux qui voudraient venir de là ne peuvent pas non plus vers nous. L'homme riche fait une vie agréable sur terre. Malheureusement, il n'est pas sauvé et finit par souffrir en enfer. En revanche, Lazare, le véritable croyant, a cédé au ciel. Lazare manquant de nourriture, mais remarquez aussi qu'il était couvert de plaies. Et pour couronner le tout, les chiens venaient lécher ses plaies. Lazare était malade, mais il fit guérir au sein où sa relation avec Dieu fit guérir par les sacrifices expiatoires du Seigneur Jésus pour les péchés. Cette parabole de l'homme riche et de Lazare nous montre que la promesse de l'Évangile ne concerne pas la santé de ce monde. Ce n'est pas non plus pour la prospérité. L'Évangile nous offre plutôt la guérison de notre relation avec Dieu. Nous pouvons être très malades et posséder peu de choses de ce monde, comme Lazare, tout en restant enfant de Dieu avec la promesse des bénédictions éternelles auprès du Seigneur Jésus et la nouvelle terre. Dieu parle de l'ancien Israël, dont le peuple dans l'Ancien Testament était malade. Dieu ne parlait pas de leur mot physique, mais plutôt de leur mal-être relationnel. Nous allons lire le livre d'Ésaïe, écrit environ 700 ans avant Jésus-Christ. Nous commençons la lecture au chapitre 1, verset 1. Vision d'Ésaïe, fils d'Amos, qu'il a eue sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jonathan, d'Achaz et d'Azéché, roi de Juda. Cieux, écoutez! Terre, prête l'oreille, car l'Éternel a parlé. J'ai nourri et élevé deux enfants, et ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la crèche de son maître, mais Israël ne connaît pas. Mon peuple ne comprend pas. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont irrité le Saint d'Israël. Ils se sont détournés de lui. Pourquoi seriez-vous encore frappés? Vous vous révoltez de plus en plus. Toute la tête est malade et tout le cœur est défaillant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain en elle. Mais les plaies, les constitutions et les ulcères purulents n'ont pas été poncés, ni bandés, ni apaisé par un onguent. Votre pays est dévasté. Vos villes sont ravagées par les fées. Votre terre, des étrangers l'a dévorée sous votre présence. Et il est désolé comme renversé par des étrangers. Dans ces passages d'ouverture, Dieu parle de la relation de son peuple avec lui. Ce texte a été écrit environ 700 ans avant Jésus-Christ et décrit l'ancien Israël alors en rébellion contre Dieu. Malheureusement, ce passage ainsi que d'autres indiquent qu'Israël désobéisse à Dieu. On y trouve de nombreux passages faisant référence aux choses de ce monde. Mais en réalité, Dieu parle de la relation d'Israël avec lui, et plus précisément de la condition pécheresse du peuple israélien. Par exemple, il dit que leur ville a été ravagée par les fées. Or, d'autres passages de la Bible nous apprennent qu'à cette époque, leur ville n'était pas brûlée, mais plutôt ravagée par le feu. C'est une figure de la colère de Dieu. Et l'expression « vos veillées sont brillées par Dieu » signifie que la colère de Dieu a été déjà déchaînée sur eux. Dieu a aussi utilisé d'autres figures. Par exemple, il a dit qu'ils étaient malades de la plante des pieds à la tête. Dieu a dit à leur sujet qu'ils avaient des blessures et des cumulances et des hospitalités putréfiantes qui n'avaient été ni soignées, ni bandées, ni aperçues par un onguent. Lorsque nous lisons d'autres livres de la Bible qui racontent l'histoire d'Israël à cette époque, nous ne trouvons pas que le peuple était malade. En réalité, Dieu utilise le terme « malade » car leur relation avec lui était malade. De ces faits, ils étaient atteints de la terrible maladie de la colère de Dieu. Cette maladie a pour conséquence définitive de nous séparer de Dieu et de sa miséricorde et de nous précipiter en enfer. Lorsque Jésus devient notre sauveur, nous sommes guéris de cette maladie. C'est pourquoi nous lisons dans le deuxième épître de Pierre: « C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. C'est par les raillures du Seigneur Jésus que nous sommes guéris de la colère de Dieu. » Cette maladie a pour conséquence définitive de nous séparer de Dieu et de sa miséricorde et de nous précipiter en enfer. Lorsque Jésus devient notre sauveur, nous sommes guéris de cette maladie. C'est pourquoi nous lisons dans le deuxième épître de Pierre: c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. C'est par les raillures du Seigneur Jésus que nous sommes guéris de la colère de Dieu. Jésus nous a guéris cette maladie éternelle en payant les prix de nos péchés et en nous accordant les saluts. C'est pourquoi nous lisons des récits de Jésus guérissant des gens. De plus, cela montre que Jésus venant de Dieu. Cela enseigne une vérité essentielle de l'Évangile. Jésus guérit de la maladie du péché qui nous a conduits en enfer, nous prévoit des merveilleuses bénédictions du ciel. Ainsi, dans ces récits, la belle-mère de Pierre est en réalité une image de quelqu'un qui est sauvé. Nous sommes guéris de nos péchés. La maladie du péché. Retournons en Marc chapitre 1 et relisons ces récits. Lisons à partir du verset 29. Aussi établi, ils sortiront de la synagogue et entreront dans la maison de Simon et André avec Jacques et Jean. La belle-mère de Simon était au lit, avait des fièvres, et aussitôt on les lui dit. Il s'approcha, la prit par la main et la releva. Aussitôt la fièvre la quitta et elle s'est mise à les servir. Nous remarquons qu'une fois guérie, elle les a servis. Tout dans la Bible a été placé par Dieu pour une raison importante. Et cela inclut le fait qu'il les a servis. Lorsque nous reconnaissons que la belle-mère de Pierre est l'image d'une personne sauvée, nous pouvons comprendre la raison de ces derniers éléments. Quand Dieu nous sauve, il nous sauve pour servir dans son royaume. Nous sommes appelés à parler du Seigneur Jésus aux autres et leur servir en leur apportant l'évangile. Et cette vérité est illustrée par le fait qu'une fois guérie, la belle-mère de Pierre les a servis. Une fois que Dieu nous a sauvés, guéri notre maladie du péché, alors nous servirons notre prochain. Poursuivons notre lecture de Marc chapitre 1 avec le récit suivant. Nous lisons à partir du verset 32. Les soirs venus, après les couches du soleil, on lui amena tous les malades et les possédés par de démons. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de malades atteints de diverses maladies et chassa beaucoup de démons. Et il ne laissait pas le démon parler parce qu'il les connaissait. Nous constatons que la nouvelle concernant un homme capable de guérir s'est répandue parmi les peuples. Cela a naturellement incité de nombreuses personnes à venir à lui pour être guéries. Le verset 33 dit même que toute la ville était rassemblée à la porte. Ainsi, la parole de cet homme, Jésus qui pouvait guérir, a parcouru toute la ville. Et Jésus a également chassé de nombreux démons. Il est important de rappeler que toute la Bible a été écrite par Dieu. En effet, nous lisons que Jésus est appelé la parole dans l'Évangile selon Jean, et plus précisément au chapitre 1. Nous lisons dans l'Évangile selon Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Puis nous passons au verset 14 et nous lisons. Et la parole était faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Nous pouvons constater que la parole mentionnée dans ces versets désigne nécessairement le Seigneur Jésus-Christ. Et il est la parole qui est faite chair, a habité parmi les apôtres. Il est la parole qui était Dieu. Ainsi, toute la Bible est la parole du Seigneur Jésus, qui s'exprime par l'intermédiaire du prophète de l'Ancien et du Nouveau Testament pour nous transmettre sa parole, la Bible. Une autre vérité importante se trouve dans l'Évangile selon Marc au chapitre 4. Nous lisons au sujet du Seigneur Jésus à partir du verset 33. Il leur annonça la parole par beaucoup de paraboles de ce genre, selon leur capacité de compréhension. Ils ne leur parlant point sans parabole. Et lorsqu'il était seul, il expliqua toutes choses à ses disciples. Ce verset indique que Jésus ne leur parlait pas sans parabole. Jésus parle toujours en parabole, et toute la Bible est sa parole. Ainsi, toute la Bible est écrite dans un langage parabolique. Une parabole est une histoire terrestre qui recèle une signification céleste ou évangélique. La Bible contient de nombreux récits terrestres. Et parce que ces récits sont dans les paraboles de Dieu, ils nous enseignent d'importantes vérités de l'Évangile. Nous venons de lire comment de nombreuses personnes sont venues à Jésus et ont été guéries. C'est un événement historique, mais il y a un enseignement important de l'Évangile entier. Comme nous l'avons appris dans les versets précédents, nous sommes atteints par le péché, une maladie qui nous a conduits au jugement. 30. et nous avons tout besoin d'une guérison. Non une guérison physique, mais une guérison du péché qui a affecté à la fois notre corps et notre âme et nous séparé de Dieu. Le fait que beaucoup ont été guéris est un encouragement. Dieu sauve beaucoup de personnes. Nous remarquons que les gens venaient en lui au coucher du soleil. Nous lisons au verset 32 de Marc chapitre 1. Le soir après le coucher du soleil, il les suit attribuant tous les malades et ceux qui étaient possédés par des démons. Après le coucher du soleil, lorsque l'obscurité fut totale, il ne put plus y avoir de guérison ces jours-là. Pourtant, nombreuses furent les personnes à venir se faire guérir à la toute fin. Elles venaient car obtenir cette guérison était primordial pour elles. Elles cherchaient une guérison physique, mais la Bible met l'accent sur une guérison bien plus importante. Il s'agit de la guérison de notre péché que Jésus nous offre lorsqu'il nous a sauvés. Cela pourrait nous encourager chacun à prier Dieu pour cette guérison de notre péché. Le prospecteur d'impôts dans Luc 18 a prié Dieu de les sauver et Dieu a exaucé sa prière. De nombreux passages nous encouragent à prier pour la miséricorde de Dieu. Dieu est un Dieu infiniment miséricordieux et patient. Cela devrait nous inciter à approfondir notre connaissance de ces merveilleux évangiles en lisant la Bible. Lire la Bible dans un esprit de prière est le meilleur usage que nous puissions faire de notre temps. Nous n'avons plus de temps aujourd'hui. La prochaine fois, nous poursuivrons le cours sur Marc chapitre 1. Vous pourriez lire Marc chapitre 1 cette semaine pour votre propre bien. En attendant notre prochain cours, que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Nous vous remercions de votre écoute. Retrouvez-nous pour notre prochaine émission. Notre adresse est la suivante. Follow the Bible Ministries, P.O. Box 813, Weimar, CA 95736, USA. Notre site web est followthebibleministries.com. Écrivez-nous par courriel à followthebibleministries@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.